bienvenue à Scale 16-17 avec Fulgence Blau au micro. Oui, Hélène du... Un froid de canard, ça il faut le dire. Et, je sais pas. Et il fait froid. Il faut sortir les gros manteaux maintenant. Voilà, en première partie d'émission, c'est Louise Thibault, la chroniqueuse de nutrition, docteur en nutrition, chercheuse, scientifique, qui est là tous les lundis avec moi pour parler de... Voilà, comment se nourrir cette ancienne... La semaine passée, on avait commencé de parler de ça d'ailleurs, les vitamines B, à point cerveau en santé. Qu'on soit jeune ou personne âgée, ça concerne tout le monde, hein, c'est pas pour les... C'est pas les gens de la cinquantaine, soixantaine, partout. Hein. De toute façon, quand on prend de l'âge, il y a des jeunes gens qui n'ont pas... Ils n'ont pas tous le cerveau en santé non plus, alors il faut être clair. Voilà, et puis en deuxième partie d'émission, après ça, je vais parler un peu de la Coupe du Monde qui a démarré hier au Qatar. Voilà. Et puis, quelques résultats des matchs aujourd'hui, parce qu'il y a eu un seul match, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, il y a eu deux, troisième qui n'est pas encore terminé entre les États-Unis et les pays d'égal. Et puis, en 16h30, en deuxième partie d'émission, je vais recevoir Andy Maï-Pressoir, qui est le porte-parole du Centre Lassalien, le Centre Socio-Éducatif. Voilà, pour nous parler de la mission de ce Centre Lassalien. Il est aussi reporter sportif à TVA Sport. Mais c'est pas pour ça que je l'invite pour venir parler du Centre Lassalien, qui est un centre socio-éducatif, parce qu'il est le porte-parole. Voilà. Alors, Louise doit être prête. Bonjour, Louise Thibault.
Ah oui, je suis super prête. J'écoute tout ce que tu dis. Je ne suis pas tellement les chroniques sportives, alors je m'informe.
Oh oui, d'accord. Allez, il va falloir que tu écoutes Myriam tous les jeudis, alors.
Bien, hein, oui, la culture sportive est un peu défaillante, effectivement. Oh,
c'est pas grave, on peut pas être bien partout, là.
Ah non, c'est ça, je suis toujours ravie d'apprendre des trucs en nutrition.
Oui, on est en plein là-dedans tout le mois, jusqu'au 18, jusqu'au 20 décembre. Hein, ça a commencé dimanche, c'est un mois. C'est la Coupe du Monde, c'est le sport, c'est la...
Ah ouais, puis les sportifs, ils ont intérêt à bien se nourrir, hein, parce que c'est,
ah oui,
c'est leur performance.
Alors,
oui, alors
on continue avec les vitamines B pour un cerveau en santé.
Ça, ma chronique telle que je l'ai soumise, c'était bon pour en finir avec les...
Voilà, on devait en finir, on va finir avec ça aujourd'hui.
Je vais toujours en parler un petit peu, mais là, j'essaie de conclure, hein, voilà. ce beau chapitre. Ouais. Alors, comme on l'a vu, ben, il y a certaines vitamines du groupe B qui sont très importantes pour le fonctionnement de notre cerveau.
Oui.
Sans oublier notre corps, évidemment. Donc, je vous ai parlé des B3, B6, B9, B12. Alors, la semaine dernière, c'était autour de la B9. Et là, oui, je vais vous parler de ces autres vitamines du groupe B qui ne s'accumulent pas dans notre organisme. Hein, elles sont solubles dans l'eau. Donc, c'est important. Et on les excrète quand même assez rapidement. Donc, c'est important d'en consommer régulièrement. Et aujourd'hui, je vais mettre à l'honneur la vitamine B3.
Ah, Louise, quand tu dis régulièrement, ça veut dire quoi? Quotidiennement ou bien hebdomadairement ou bien comment
chaque jour. Ah oui, chaque jour.
Ah bon, d'accord.
Mais c'est pas difficile parce que si vous consommez des protéines, que vous soyez que vous mangez de la viande ou que vous soyez végétarien, j'allais dire que vous soyez carnivore, mais en fait nous sommes tous des omnivores, hein? Notre race a évolué de façon à pouvoir manger, digérer, utiliser pratiquement tous les aliments.
Oui.
Donc voilà, alors nous sommes omnivores, donc que nous mangeons de la viande ou pas, il y a de la vitamine B dans la plupart des protéines. Donc si on intègre bien les protéines dans nos repas, il n'y aurait pas de souci. Mais moi, je connais des végétariens, enfin j'ai connu certains étudiants en nutrition qui me disaient être végétariens et qui ne mangeaient que des fruits, des légumes, des céréales.
Ah bon? Uniquement ça, rien d'autre.
Non, c'est ça.
Okay.
Donc, j'enseignais la nutrition, donc j'avais toujours un cours sur le végétarisme, et je pense que je les ai bien informés de ce côté-là. Il faut, quand on est végétarien, il faut quand même intégrer des protéines végétales. Il y en a toutes sortes de protéines végétales, il y a les légumineuses, il y a le tofu, il y a les simili-viandes aussi, qui sont de plus en plus présentes dans nos supermarchés, donc voilà. Alors, c'est pas facile. C'est pas difficile, devrais-je dire, d'intégrer de la vitamine B3 dans notre régime. Il y en a beaucoup dans le foie. Hein. J'ai parlé du foie de poulet, de veau, de bœuf. Je devrais ajouter le foie de porc.
Le foie de porc aussi?
Ben oui, parce que notre humoriste m'a mentionné ça la semaine dernière. Il dit, moi, je mangeais du foie de porc. J'ai dit, évidemment, quand on était jeune ou plus jeune, ou ceux qui ont certain âge, ont consommé du foie pour la première fois, ben c'était du foie de porc.
Okay.
Donc, dans tous les foies, il y a les foies de plusieurs animaux, il y a beaucoup, beaucoup de vitamine B3.
Wow.
Et puis, il y en a aussi dans le saumon. Hein, il y en a dans le saumon, il y en a même dans le maquereau, la truite, le bœuf, la volaille, le porc.
Le fameux saumon que tu nous as toujours conseillé, d'ailleurs.
Ah oui, et ça, il ne faut pas l'oublier, parce qu'il n'y a pas seulement que la B3 qui est vraiment, vraiment importante dans le saumon, mais il y a tous les acides gras. Et puis aussi, la vitamine B3, un peu comme le folate dont je parlais la semaine dernière, eh bien, on l'ajoute à la farine de blé. Et on l'ajoute aussi aux céréales, on l'ajoute aux pâtes alimentaires, parce que ça fait partie du programme d'enrichissement que le gouvernement canadien a mis de l'avant il y a ça de plusieurs années.
Ah bon?
Donc, c'est ça. Donc, nous avons aussi des produits qui sont enrichis de vitamine B3. Et la vitamine B3, ben, elle peut être aussi obtenue à l'intérieur de notre organisme par la transformation d'un composé de protéines, en fait la transformation du tryptophane. Alors le tryptophane fait partie de nos protéines alimentaires, c'est un acide aminé, et puis ben, il peut former de la niacine. Donc c'est pas trop difficile de rencontrer ses besoins en niacine quand on intègre des protéines, et puis quand on mange un peu de tryptophane via les protéines.
OK.
Et ce que j'aimerais ajouter à ça, c'est que la consommation régulière d'aliments riches en niacine, eh bien, elle a été mise en lien avec un taux moindre de déclin cognitif quand on prend de l'âge. Alors ça a été fait dans des études très, très sérieuses, dont une étude américaine. En fait, les Américains, ils font tout en gros, hein,
c'est le pays du gigantisme.
Et c'est ça, et ils font toujours de très grosses études.
Oui.
Donc, il y a une étude, moi, qui m'a particulièrement intéressée, c'est le Chicago Health and Aging Project.
Mm-hmm.
On a suivi des milliers de sujets américains pendant plus de 5 ans. Et puis, chez ces sujets-là, eh bien, on s'est intéressé à ceux qui prenaient des suppléments en niacine pour tenter de prévenir le déclin cognitif. Et puis, on n'a pas vraiment trouvé d'effet positif.
Ah bon?
À la supplémentation en niacine parmi ces milliers de sujets-là.
Mais pourquoi ils en vendent à la pharmacie, alors?
Ah, ben, c'est parce que, je sais pas, et puis en plus, tu parlais du froid de canard, souvent à l'arrivée du froid,
ouais.
Ben, on est tenté d'ingurgiter des suppléments de toutes sortes, et puis on voit ça, vitamine B, bon, pour le métabolisme, ça va peut-être me réchauffer, mais ça donne pas grand-chose. Enfin, si vous avez une condition de santé normale...
Ça peut avoir peut-être l'effet placebo.
Oui, mais pendant un petit moment.
D'accord.
Alors,
il faut y croire. Louise, il faut y croire quelquefois.
Ben, il faut y croire, mais il faut surtout manger sa niacine alimentaire.
C'est ça, c'est autre chose, quoi, là.
Oui, ça, c'est autre chose. Ça, c'est du solide.
Ouais.
Donc, évidemment, il y a des gens qui vont souffrir de malnutrition. Hein, il y en a partout. Dans le monde, il y a des gens qui souffrent de malnutrition. Et même au Canada, certains anorexiques, moi j'ai travaillé avec des gens qui souffraient d'anorexie, de boulimie, et qui se faisaient vomir, et puis là, ben, ils développaient des carences alimentaires.
Oui.
Alors évidemment, si on souffre de carences, on va devoir prendre des suppléments, mais si on ne souffre pas de carences, ben, c'est pas vraiment nécessaire.
Oui, est-ce qu'on peut mettre la malnutrition et la malbouffe dans le même panier?
Non.
OK.
Non. Parce que la malbouffe, c'est très, très varié. Hein? Les gens qui mangent de la malbouffe ne mangent pas nécessairement la même chose.
Ouais.
Et puis, il y a beaucoup de gens qui mangent de la malbouffe, qui prennent toutes sortes de suppléments. Donc, ils se retrouvent peut-être pas nécessairement en carence.
Okay.
Mais il y a une théorie qui a été mise de l'avant il y a plusieurs années selon laquelle les gens qui souffraient d'obésité étaient mal nourris. Autrement dit, ils avaient des carences nutritionnelles qui étaient dues à leur alimentation très, très pauvre en nutriments et très, très riche en calories. Mais ça, ça n'a pas vraiment perduré, cette théorie.
Cette théorie, oui. Mais je connais des gens qui mangent très bien, qui ne mangent pas de n'importe quoi, mais qui ont de la difficulté à perdre du poids.
Oui.
Comment ceux-là peuvent se comporter? Ils vont se dire, mais je suis complètement découragé, je ne sais même plus quoi faire, je ne mange même plus de viande. Dans ce cas-là, il faut s'orienter vers la quantité d'aliments qu'ils mangent à chaque repas, peut-être, oui.
Ben, en fait, moi, je conseille à ces gens-là de consulter un ou une nutritionniste.
Ouais, une vraie.
Ah oui, oui, ben oui, une vraie, vraie. Alors, les nutritionnistes, ce sont les seuls vrais experts en nutrition.
Oui. Hein?
Ils étudient à l'université pendant 3 ans et demi, c'est pas rien ça. Pour vraiment analyser ce qu'ils mangent, parce que moi j'ai fait de la consultation pendant plusieurs années, et puis souvent les gens me disaient, je mange pas beaucoup, puis finalement quand on analysait ce qu'ils mangeaient, ben on trouvait des petites choses ici et là, et souvent ce sont des petits changements qui vont peut-être favoriser une perte de poids. Mais est-ce que tout le monde doit perdre du poids? Hein? C'est y a une grande partie d'hérédité, de génétique dans
les ADN.
Eh bien, c'est ça. Ouais. Hein, c'est dans nos gènes. Donc,
ça joue un rôle aussi, oui.
Oui, c'est ça. Et puis la viande, comme tu le disais, la viande, ça apporte des protéines, ça apporte des gras, ça apporte une certaine quantité de calories, mais il y a aussi tous les autres aliments qui sont importants. Donc, il n'y a pas que la viande qu'on devrait pointer du doigt si on veut perdre du poids. Alors, ça aussi, c'est une croyance qui perdure.
OK.
Ouais. Alors, c'est ça. Moi, je voudrais aussi vous dire que quand on parle de suppléments, on est tenté de prendre des suppléments de vitamine B, B3, B6, B9, B12. Moi, je vous dis que c'est important pour le métier de garder votre cerveau jeune et puis vous donner de l'énergie. Mais commencez par manger des aliments et qui sont riches en ces vitamines. Donc, les vitamines B3, je vous ai dit qu'il y en avait dans le foie, le saumon, les viandes et les céréales. Mais la vitamine B6, elle, on la trouve aussi dans les protéines animales, mais aussi dans la banane. Dans la banane, il y a quand même pas mal de vitamine B6, dans l'avocat, dans les pommes de terre douce, et même dans les graines de tournesol.
Et les avocats, j'en mange beaucoup.
Ah, là, à ce moment-là, tu fais le plein de B6.
Oh là, je les adore, parce que je les adore.
C'est bien.
C'est comme les mangues, quand c'est la période des mangues, je ne peux pas m'en passer, quoi.
C'est bien, comme Denis de la Ferrière.
Ah bon, il aime ça aussi, les mangues, lui?
Ah, mais moi, j'ai lu ça dans ses romans. Donc.
Ouais, d'accord.
La vérité, je ne sais pas. Alors, il dit aussi la vitamine B12. La vitamine B12, en fait, c'est intéressant. Maurice me disait qu'il avait vu quelque part que les gens, certaines personnes âgées, souffraient d'une carence en vitamine B12. Et c'est vrai. C'est vrai.
Qu'est-ce qu'il faut pour pallier à ça?
Ben, en fait, plus on avance en âge, pour ne pas dire vieillir, moins notre système devient efficace à absorber certains nutriments. Et il semblerait que la vitamine B12 y ait une certaine forme de... Enfin, une certaine habilité moindre à l'absorber.
À mon accord. Okay.
Ouais, c'est ça, parce que notre estomac, notre intestin change avec l'âge, donc il est fort possible que même en présence d'un apport alimentaire adéquat en vitamine B12, notre corps n'arrive pas à bien l'absorber.
Ah bon, ok.
Alors à ce moment-là, oui, les suppléments pourraient être utiles.
Oui, oui, oui. Dans ce cas-là, on ne peut pas dire pourquoi il prend des suppléments, mais pourquoi elle prend des suppléments. Quoi.
Et encore là, il faut que ce soit diagnostiqué, il faut faire des prises sanguines, il faut vraiment voir, il faut analyser.
Ça doit être presque... Est-ce que les suppléments peuvent se prendre comme ça en marché libre? En pharmacie, on va, on se sert, on s'en va, ou bien c'est le médecin, son médecin de famille qui doit prescrire?
Si votre médecin vous en prescrit, il va sûrement vous prescrire la dose dont vous avez besoin.
Oui.
Alors que quand on achète ça en pharmacie ou dans des magasins d'aliments naturels...
C'est ce que j'appelle marché libre.
C'est ça, oui, en marché libre. Eh bien, on n'est pas toujours... les doses qu'on va acheter ne seront pas nécessairement adéquates.
Oh, c'est quoi? Le corps s'attend
à quoi? Nous pourrions souffrir si nous souffrons de carence.
Ouais.
Alors encore là, c'est important de consulter des professionnels de la santé.
Et je une précision, c'est que tout ce que tu nous dis aussi, on les retrouve dans tes livres. Hein.
Ah non, mais les publiés aux éditions de l'Homme, oui.
Oui, il faut le souligner. Pour ceux qui n'ont pas encore les copies de tes livres qui sont publiés aux éditions de l'Homme, allez-y vous les procurer. Ils sont depuis en librairie. Allez-y vous les procurer. Et puis,
voilà. Éditeur pour qu'il vous...
Ouais, édition de l'Homme, Louise Thibault. Vous allez trouver ça.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, dans mes livres, je parle peu d'un sujet qui était le sujet d'un webinaire auquel j'ai assisté aujourd'hui.
Oui.
Et c'est le microbiome.
C'est quoi ça encore?
En fait, le microbiome.
C'est quoi ça encore, Louise?
Les bactéries qui vivent dans notre intestin, des centaines de millions de bactéries qui vivent dans notre intestin.
Oui.
J'ai appris que les protéines alimentaires, elles contribuent à notre microbiome intestinal et elles sont très, très importantes pour la santé. La santé globale, la santé de notre intestin et aussi notre santé globale. Alors ça, c'est quelque chose de nouveau pour moi.
Oui.
Donc j'ai appris ça aujourd'hui dans le webinaire qui était donné par un prof de l'Université Laval.
Ça, c'est la ville, la vie, ça c'est l'école de la vie, ça.
C'est ça, oui. Et puis il y a une société très, très importante de nutrition qui s'appelle la Société canadienne de nutrition. Vous pouvez aller sur leur site web. C'est une source d'informations très sûre sur la nutrition.
Oui.
Hein, quand on tape nutrition sur Google, on a toutes sortes d'informations.
Oh, oui, oui, c'est pourquoi quand tu parlais de nutritionniste, j'ai dit une vraie ou bien vraie. Voilà, parce qu'il y en a il y a tellement de gens qui s'improvisent de nos jours, depuis quelques années, comme nutritionniste, mais au fond, c'est pour se faire de l'argent.
Bon, bah oui.
Soyons sérieux un peu, parce qu'il y va de la santé des gens, quoi.
Ouais, c'est ça. Hein. Mais bon, souvent, on a affaire à des gens qui ont énormément de charisme ou
oui.
Une notoriété qui vont vous charmer avec leur apparence aussi.
C'est ça.
Et puis
pour terminer les 10 dernières secondes qui nous restent.
Les 10 dernières secondes, pensez protéines. Hein, pour bien vous alimenter, protéines à chaque repas, c'est bon pour votre corps et pour votre cerveau.
Merci beaucoup, Louise.
Je t'en prie.
Bonne semaine, à la semaine prochaine.
Au revoir.
Merci. Look at me. Vous entendez les applaudissements, les cris, tout ça, c'était hier là-bas au Qatar. C'était la pièce, la musique avec le jeune coréen, sud-coréen, c'est pas un nord-coréen, c'est un sud-coréen. Jungkook, Dreamers. Yeah, ok. Voilà, c'était la pièce. Ça vous dit que c'est parti depuis hier jusqu'à la fin, presque à la fin du mois de décembre, quelques jours avant Noël. La finale là-bas, et puis c'est fini, quoi. Alors, le match d'ouverture, le pays hôte, le Qatar face à l'Équateur. Qu'est-ce qui s'est passé? 2-0 pour l'Équateur. Voilà, bon, c'était... Bon, on se dit, bon, de toutes les façons, comme le pays organisateur ne joue pas les éliminatoires, voilà, qu'est-ce que vous voulez? C'est le cadeau qu'on peut leur faire, quoi, avec les millions et les milliards qu'ils ont dépensés. Mais l'Équateur n'a pas eu pitié, voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Ça a été comme ça, 2-0. Bon, ça a commencé, moi j'ai bien aimé la cérémonie. Il y a des gens qui sont en train de taper sur l'afro-américain, comment il s'appelle, Morgan Freeman, qui a participé en direct d'ailleurs. Ça n'a pas été préenregistré, il était là-bas, il était sur le terrain, dans le stade, avec sa voix. Quand j'ai entendu, avant qu'il n'apparaisse même physiquement, quand j'ai entendu la voix, je me suis dit, ça c'est Morgan Freeman. Ça c'est, on peut pas rater ça, quoi. Jusqu'à ce que je vois son visage, je le vois en physique. Ah oui, c'était beau. C'était très, très émouvant. Beaucoup d'émotions d'ailleurs. Pour ceux qui encontrent l'émotion en eux, oui. À d'autres qui trouveront que c'est pas du tout beau. C'est pas chacun sa manière d'interpréter les choses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il y a les Anglais qui ont joué contre les Iraniens. Les Anglais, ils se sont mis à genoux d'ailleurs. Ça, vous savez, ce geste de protestation qui vient du footballeur afro-américain Colin Kaepernick. Yeah, ça vient, voilà. Les Anglais, ils l'ont fait aujourd'hui, l'équipe nationale anglaise, qui a d'ailleurs maté l'équipe iranienne 6-2. Ça, c'est ce qu'on appelle le score fleuve. Bon, vraiment, 6-2, c'est beaucoup. C'est, en première partie, j'ai vu le match. Ça me permettait, mon emploi du temps me permettait de le voir. Et puis, pour en parler aussi, tout ça, l'évolution de ces équipes, je me suis dit, bon, ben, l'Iran n'avait pas la possibilité vraiment de battre l'Angleterre. Ils ont eu quelques rares occasions de marquer 2 buts. Bon, ça a été un peu trop, quoi, 6-0, mais non, ça a été 6-2. Je pense bien qu'ils ont au moins pu marquer 2 buts, c'est pas mal. Les Anglais vont avec 6 buts. Et deuxième match que j'ai pu voir, non, je finis avec le match des Anglais d'abord avant de parler d'autre chose, oui. Parce que là, le Sénégal m'a complètement... Ils ont très bien joué jusqu'à dans les prolongations, mais je vais en parler un peu plus tard. Donc, les Anglais, comme ils l'avaient annoncé d'ailleurs, ils ont tenu parole juste avant le coup d'envoi. Face à l'Iran, les footballeurs, tous les joueurs sur le terrain ont posé les genoux à terre en guise de protestation. Le sélectionneur de l'équipe, Gareth Southgate, qui avait évoqué cette possibilité dimanche lors de la conférence de presse, ce sera un geste fort qui fera le tour du monde. On l'a vu, tout le monde l'a vu. Pour ceux qui ont vu le match, donc un geste à destination des jeunes pour défendre l'inclusivité et de s'opposer aussi à toutes les formes de discrimination. C'est tout. En gros, c'est ça, c'est ce que ça signifie. Donc le capitaine de la sélection voulait également porter un brassard arc-en-ciel, mais la FIFA a refusé d'une manière extrêmement catégorique. Oui, non, ça ne passe pas. Voilà, ça ne passe pas, ça ne peut pas aller comme ça. La FIFA dit non au brassard One Love que plusieurs sélections européennes voulaient porter. Non, voilà, donc, et puis les Iraniens qui savent ce qui se passe dans leur pays de toutes les façons, eux, ils n'ont même pas chanté l'hymne national iranien. Voilà, ils sont restés la bouche fermée. Si devant le stade, des supporters ont chanté le nom de la martyre Mahsa Amini, ça c'est clair, dont la mort a mis le feu en poudre en Iran depuis quelques mois déjà, c'est pas 2 semaines, 3 semaines, ça continue. Hein. Les joueurs de la sélection perse sont restés sans réaction lors de l'hymne, préférant ne pas chanter les paroles alors que le peuple iranien est réprimé dans le sang. Voilà, c'est ce que ça veut dire, en gros. Voilà. Je vais revenir sur la Coupe du Monde parce que c'est pas fini. Après mon invité, restez à l'écoute après la petite pause publicitaire. Ça va être les sujets jusqu'à la fin de cette compétition. Hein, parce que tous les jours, je vais en parler. Voilà, après la petite pause publicitaire, je vais recevoir mon invité, Andy Maï Pressoir, qui est le porte-parole du Centre Lassalien, Centre socio-éducatif, pour parler de la mission de ce Centre Lassalien. Restez à l'écoute. À tout de suite après la petite pause publicitaire.
Vous écoutez Escale 16-17 avec Fulgence Blas.
Alors, c'est la deuxième partie de l'émission. Mon invité est déjà là, Andy Maï Pressoir, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques semaines, là, oui, à un séminaire qui est de la Fondation Dynastie. J'ai dit, Andy, il m'a dit qu'il est porte-parole du Centre des organismes très impliqué dans le quartier Saint-Michel. J'ai dit, mais Andy, là, il faut que je t'invite là pour que tu viennes en parler. j'ai dit, je t'invite pas parce que tu es chroniqueur sportif à TVA Sport. Bonjour, mais Andy.
Quelle belle présentation, sincèrement. Il y avait du suspense, du mystère. Je me disais, wow, OK, où je me place là-dedans. Mais non, c'était très bien dit. Oui. Enchanté. Puis c'est un honneur et un bonheur de te parler à ton émission.
Oui, merci d'avoir le temps de venir parler de cet organisme dont tu portes fièrement, dont tu as fièrement le porte-parole. Comment tu es arrivé là? Ils t'ont vu tellement impliqué dans les choses du quartier Saint-Michel qu'ils se disent non, le porte-parole de notre organisme, ça doit être Andy Maï Pressoir.
C'est un peu des deux.
Oui.
Et c'est drôle parce que tu commençais en disant je ne vous le présente pas en tant que le chroniqueur de TVA Sport. Mm-hmm. Parce que oui, à la base, c'est ce que je fais au quotidien.
Oui.
Je suis reporter, animateur, Donc, je couvre le sport déjà depuis 10 ans.
On va parler de ça à la fin de... On va parler de l'organisme d'abord, et puis on va venir sur ça. Voilà.
100%, sauf qu'en 2020,
oui.
En pleine pandémie, ben, moi, j'ai appris au mois de mars que, ben, en fait, que je perdais mon emploi de façon temporaire. On sait que le sport a été mis sur pause pendant des mois.
Oui.
Et là, je suis à la maison. Et tu sais, quand tu es habitué de tous les jours de sortir, d'aller au bureau, de couvrir, de faire des reportages, on a cette espèce de routine, hein, cette espèce de cadre préétabli à tous les jours. Et là, du jour au lendemain, pow, non, plus de travail. OK, mais je fais quoi alors? Je sers à quoi au final?
Oui.
Parce que oui, c'est beau, c'est bien beau de raconter des histoires sportives, de faire des entrevues, mais là, je me demande, est-ce que c'est pas un peu secondaire finalement, ce que je fais dans la vie?
Oui.
Et qu'est-ce qui pourrait être peut-être essentiel? Et c'est à ce moment-là que je regarde ce qui se passe à Montréal. Les rues sont désertes, c'est la pandémie.
Oui.
Par contre, il y a un organisme qui s'appelle le Centre Lassalien. Mmh. C'est un centre socio-éducatif à Saint-Michel.
Mmh.
Et je réalise que c'est un de mes amis, directeur général, Paul Evra, qui est le directeur général. Paul a mon âge. C'est un gars qui parle comme moi, c'est un gars qui a grandi comme moi. On a les mêmes points de repère.
Mmh.
Et je vois qu'ils ont une espèce d'initiative où ils vont porter de la nourriture à des familles qui sont dans le besoin.
Wow.
Et Fulgence, quand on sait qu'à Saint-Michel, je ne parle pas d'Afrique, là, je parle à Saint-Michel, l'autre côté de l'autoroute 40, il y a un enfant sur trois qui vit dans la pauvreté. Saint-Michel est un des quartiers, des arrondissements les plus pauvres au Canada pour les enfants. Un enfant sur trois ne mange pas trois repas par jour à Saint-Michel, encore à ce jour en 2022.
C'est beaucoup.
Et quand
c'est
on
beaucoup.
Sait ça, c'est énorme.
Mm-hmm.
C'est énorme et on se dit, waouh, dans quel privilège moi j'ai d'avoir accès à toutes ces ressources, de manger à tous les jours, d'avoir un toit, même d'avoir toutes ces choses. On vit dans un monde de surconsommation.
C'est ça.
Et j'ai vu que leur initiative était super simple, mais tellement efficace. C'est qu'il y a un chef qui venait toutes les semaines, un chef, un Québécois, mais qui cuisinait une recette internationale. Écoute, sa femme est haïtienne, donc à chaque semaine, il pouvait te faire autant la soupe joumou haïtienne qu'une recette libanaise, marocaine, africaine, Côte d'Ivoire. On allait vraiment dans toutes les directions.
Wow.
Et ce qu'on faisait, c'est qu'on allait livrer à la porte même, un, cette recette, mais deux, aussi une boîte de collation. Des denrées, de la nourriture pour une semaine.
Mmh.
Et c'est là que ça devient tangible.
Mmh.
Parce que, tu sais, Fulgence, on peut aller à l'épicerie, donner un petit 20$ pour telle cause, telle chose, mais au final, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on sait vraiment de où va cet argent-là?
Oui, c'est vrai.
Contre,
c'est vrai.
Quand j'ai été la première fois, et j'ai vu non seulement, un, les bénévoles, mais deux, les familles, la gratitude dans les yeux des familles qu'on venait débarquer. La porte ouvre, et encore une fois, c'est la pandémie, fait qu'on n'entre pas chez les gens, on les laisse à la porte.
Oui.
Bonjour, c'est le Centre Lassalien, on est là pour vous. Et là, tu vois, il y a une famille, des fois, c'est des nouveaux arrivants qui viennent d'arriver, moi, je sais pas, que ce soit du Congo, de la Côte d'Ivoire, d'Haïti, d'un peu partout. Derrière, il y a 4 enfants, c'est un petit 3 ou un 4,5, et tu te dis, waouh, ça peut faire vraiment une différence. Et quand tu le vois dans le visage des gens, la reconnaissance, le sourire, Ça vaut de l'or.
Ouais.
Et c'est là que je me suis dit, mais j'étais où pendant toutes ces années-là? Et depuis ce temps-là, ben, je suis porte-parole de ce centre-là parce que ça me touche vraiment.
Oui, parce que tu étais peut-être dans ta tour à vitrine, là.
Ben oui, exact.
Alors que cette réalité, non, jury, mais c'est pas un vrai rire, cette réalité, l'arrivée de ce maudit virus, c'est comme ça que je l'ai surnommé, nous a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Hein. C'est-à-dire savoir que chacun de nous a pu donner un sens à sa propre vie.
100%. Alors moi, ça a été le cas. Il faut dire que je suis d'origine haïtienne. Mon père est haïtien, ma mère est née ici au Québec, donc ma mère est métisse, d'un père haïtien et d'une mère québécoise. Et pour moi, ce genre de rencontre-là à Saint-Michel, moi, j'ai jamais grandi à Saint-Michel.
Mmh.
J'ai grandi un peu à Montréal, mais j'avais l'impression d'aller voir ma tante, ou d'aller voir mon oncle, ou d'aller voir mon grand-père, ou d'aller voir mes cousins. Tu sais, il y a cet esprit de communauté dans la diaspora, dans l'immigration, dans tout ce qui est inclusif. On est comme ça, nous. Et tu le sais, Fulgence, t'es arrivé ici au Québec il y a quelques années déjà, mais c'est sûr que je suis sûr que même au séminaire, au sommet Dynastie, où on s'est rencontrés il y a quelques semaines, j'ai senti ça. Je suis sûr que tu as centré cet esprit de famille, cet esprit de communauté, puis je pense qu'il n'y a rien de plus beau que ça, et ça, ça vaut très cher.
Et d'ailleurs, c'était l'objectif premier même de ce sommet là, de la Fondation Dynastie.
Ben oui.
De se retrouver, de se tendre les mains, et puis bon, essayer d'aller de l'avant, ne plus avoir peur de l'autre, et ne plus se méfier des uns et des autres, quoi, d'ailleurs. Alors, les cinq piliers de cet organisme-là, éducatif, culturel, santé physique, loisir, social. Quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, mais ils n'ont rien laissé au hasard, ils n'ont rien laissé tomber. Tout.
Ben, c'est un peu la beauté de la chose. Il faut dire que c'est un centre qui est. Faut dire que le camp Lassalien était géré par des frères de l'Église. Ça fait des années.
Oui.
Et depuis quelques années, c'est dirigé par Paul Evra, comme je te dis, qui lui a un background un peu en politique. Il a aussi travaillé pour la fondation de Didier Drogba.
Oui.
C'est un gars qui est très fort en relations publiques, qui est très fort en politique, qui est très fort aussi en relations dans la communauté. Il avait travaillé aussi à une époque avec la Maison Haïti.
Oui.
Et c'est un gars qui a une vision. Et la vision, ben, tu viens de le dire, Fulgence, ben, c'est vraiment de ramener tout le monde à un endroit, de recentrer les gens, les familles, les enfants aussi, mais les familles qui viennent d'arriver à Saint-Michel, à Montréal.
Oui.
Et les piliers, ben, c'est ça. Alors, on a du sport au centre lassalien, on a des ateliers de la formation, on a des ateliers de cuisine, on a des ateliers de radio, on a des ateliers de musique, on a de tout. Et c'est vraiment un centre socio-éducatif, et je veux pas l'appeler un centre communautaire, parce que c'est beaucoup plus que ça.
C'est plus que ça, oui, c'est plus que centre communautaire, au fait, oui, oui. C'est un centre socio-éducatif.
Oui, parce que justement, on veut aller vraiment dans un lieu de rassemblement, mais qui permet de se développer. Et des fois, les centres communautaires, on dirait que c'est juste, bon, ben, c'est des dons ici, on vous aide ici, à gauche, à droite.
C'est ça.
C'est beaucoup plus que du bénévolat. Il y a des intervenants qualifiés qui travaillent au centre lassalien. Mmh. Même en ce moment, on a un programme qui fait beaucoup jaser, le programme Métiers d'urgence, où on essaie de faire comprendre aux jeunes.
Oui, parle-nous un peu de ça, Andy.
Ben oui, d'avoir des jeunes dans des métiers d'urgence, c'est-à-dire policiers, pompiers, des métiers où, malheureusement, on ne voit pas beaucoup de diversité.
C'est vrai.
Ça a été la question pendant des années, et ça l'est encore plus depuis l'événement de George Floyd en 2020.
Oui.
Ce rapport, un peu cette cassure entre les jeunes, surtout issus de la diversité, face à la police.
Andy, est-ce que c'est pas dû au fait que les parents dans la communauté noire en général demandent aux enfants, ils exigent de leurs enfants de faire des hautes études pour ne pas souffrir comme eux, ceux qui n'ont pas fait des hautes études,
c'est
pour pouvoir se tailler une bonne place dans la société.
100%, 100%. Et ça va, je pense que, je veux dire, ça va au-delà de ça, dans le sens où, moi je trouve qu'il y a un problème de communication.
Mm-hmm.
Tu vois, il y a beaucoup de policiers à Montréal qui n'ont aucune idée de ce qu'on vient de parler là, pendant les dernières minutes sur Saint-Michel, sur la réalité d'un jeune de Saint-Michel.
Oui.
Prends un policier, je ne sais pas, moi, qui est de la ville de Québec, lui débarque là à Montréal, aucune idée comment approcher un jeune, comment parler à un jeune, ne connaît pas la réalité du jeune, dans les valeurs de sa famille, comment il vit à la maison, etc., etc. Et ce programme-là permet justement de faire un pont, de faire un lien, et de permettre aux enfants, aux jeunes, de s'intéresser plus à ce genre de métier-là pour qu'on soit mieux représenté, pour que les policiers soient mieux représentés, qu'ils comprennent plus la situation,
la situation, comprennent la réalité. La société dans laquelle ils vivent aussi, oui.
100%. Est-ce que tu me crois, Fulgence, si je te dis que ça fait 10 ans que je fais de la télévision, et dans ma vie, les plus grands épisodes de racisme ou de profilage, ça a été quand j'ai été arrêté par la police? Et c'est des gens qui, au début, me traitaient comme un criminel. Puis là, après, quand je leur dis ce que je fais dans la vie, « Ah, OK, toi, t'es à la télé. OK, non, toi, t'es correct. » Des imbécilités comme ça, des termes comme ça.
Ça me surprend pas, Andy, ça me surprend pas. On a toujours, chacun de nous est passé par là, qu'on le veuille ou pas. Voilà, il suffit qu'on n'ait pas la peau blanche. Bon, ben ça, c'est pas le but de. On va. Ça, c'est des choses même qui. Tu te rappelles, on en a parlé là-bas au séminaire. Comment aller chercher les moyens qui sont mis à nos dispositions. Comment les gens n'arrivent pas à se faire encadrer. Et tout ça, ça provient de tout ça aussi. Hein. On juge déjà parce que tu es autre, tu n'es pas le standard, voilà, de la région, du pays dans lequel tu vis. Et puis bon, ben tout de suite, on te fait comprendre que il y a des gens. Ouais, qu'est-ce que vous voulez? C'est Enoir qui me dira que j'ai jamais été victime. Moi, c'est que lui il vit sur une autre planète, quoi.
Mais oui, 100%. Ouais. Donc, non, c'est le Centre Lassalien, ça a été vraiment un pont pour moi qui m'a permis de me rester accroché, puis surtout de rester sain à travers cette pandémie. On sait que ça n'a pas été facile mentalement, psychologiquement pour bien des gens. Puis ça fait du bien de redonner, mais aussi, je te dirais que c'est eux qui m'aident là-dedans, qui m'aident à me développer en tant que personne. Donc ça fait vraiment plaisir d'être porte-parole.
Alors, cette histoire-là, tu as failli perdre ton emploi quand la pandémie a commencé, parce qu'il n'y avait plus de sport, tout ça, mais tu as repris, hein?
Oui, ça a duré finalement 8 mois.
Oui.
Puis, depuis ce temps-là, même si j'ai recommencé à travailler, je me suis pas dit, OK, ben c'est fini, le Centre Lassalien.
Non. Je sais que tu es engagé. Parce que la conversation qu'on a eue, là, quand tu me parlais de ça, tes yeux qui brillaient, il dit, je suis le porte-parole.
Non, mais sincèrement, oui, c'est ça. Faut dire que c'est ça, le sport a un peu été mis sur pause. On a vu les grandes ligues, que ce soit la NBA, la Ligue nationale, la MLB, etc., se mettre sur pause pendant un instant.
Oui.
Et par la suite, je crois que les médias d'information, puis surtout TVA Sport, s'est posé plusieurs questions. Il y a eu plusieurs coupures.
Oui.
Dans la salle de nouvelles, il y a une trentaine de mes collègues qui ont été soit réaffectés, soit suspendus, malheureusement. Mm-hmm. Et finalement, je suis revenu en novembre.
Tant mieux pour toi.
Merci, 100%. Mm-hmm. Une pause de 8 mois.
Oui.
Mais ça a été une grande période de remise en question.
Tu parles de novembre 2021, là?
Oui, 2020. Donc, de 2020. Mars 2020 à novembre 2020. Exactement. Puis, au final, on est de retour. C'est sûr que la couverture a beaucoup changé.
Oui.
On n'est pas nécessairement au bureau à tous les jours. On fait des entrevues, on fait des reportages. Moi, j'avais l'habitude de voyager énormément aussi pour le travail. On voyage un peu moins.
Oui.
Mais ça reste que je suis très content de toujours pouvoir de faire ce travail-là, d'exercer cette vraiment, c'est un privilège. C'est cette chance de couvrir le sport professionnel. Mmh. Moi, j'ai toujours baigné là-dedans. Mmh. Quand j'ai réalisé que je ne serais pas athlète, je me suis dit que c'était la seule chose qui permettait de rester connecté.
Ouais, fais le compte-rendu des rencontres sportives.
Oui, c'est ça.
Alors, on revient au centre éducatif, le Centre Lassalien. Au fait, quand j'ai vu qu'ils avaient 80 employés, j'ai dit waouh, mais c'est pas un petit, c'est pas une petite chose, hein?
Non, vraiment pas. Puis, faut dire qu'il y a beaucoup de gens, même. Il y a 80 employés, mais il y a beaucoup, des centaines de bénévoles. Je dirais qu'à chaque saison, il y a un gros événement. L'été, c'est ce qui s'appelle le barbecue du directeur. C'est un énorme événement sur 2 jours où, oui, les familles se déplacent sur place le temps d'un barbecue, le temps d'un repas. Il y a aussi des livraisons à travers ça, des livraisons de cadeaux pour les familles, des cartes cadeaux pour l'épicerie, bien sûr encore des recettes. Puis ça permet de se rassembler aussi. L'hiver, on fait la même chose, mais pour la livraison du Père Noël, il y a de plus en plus aussi de commanditaires depuis la pandémie qui ont voulu s'associer au Centre Lassalien parce qu'ils voient littéralement ce que les jeunes peuvent tirer de cette expérience-là.
Oui.
Il y a beaucoup de jeunes qui ont été approchés ou qui ont été un peu curieux de savoir ce qu'était le Centre Lassalien. Mmh. Des décrocheurs, c'est des jeunes qui n'allaient plus à l'école, mais qui ne voulaient pas aller dans la rue. T'imagines?
Ah.
Quand tu es confronté à cette situation à 13, 14, 15 ans,
oui.
Tu te dis, bon, l'école, c'est pas pour moi, mais la rue non plus. Qu'est-ce qui reste comme lieu? Donc, c'est des jeunes qui, pour certains, viennent au centre.
Oui.
Viennent au centre et apprennent d'autres choses, vont apprendre on a des ateliers de radio, on a des ateliers qui viennent de commencer sur la musique, des ateliers sur comment apprendre à utiliser l'informatique, l'internet, et on développe les sens et on développe la curiosité des jeunes.
Oui, surtout avec toutes les nouvelles plateformes numériques et technologiques.
Exactement, exactement. Et le but, au final, c'est de les allumer, puis de leur trouver une passion ou un rêve, puis le chemin de chacun est différent, mais le centre, je crois que le centre le fait très bien, juste permettre de trouver une vocation puis une direction.
Oui, oui, oui. Quand je suis allé faire mes recherches sur le site là-bas d'ailleurs, l'environnement éducatif, vous avez 5 environnements éducatifs qui parlent d'ailleurs principalement centrés sur les enjeux scolaires de persévérance, de décrochage et de réussite éducative. L'environnement éducatif a pour but d'offrir aux jeunes un soutien dans leur parcours scolaire et ce, en portant une attention particulière aux jeunes plus vulnérables. Vous ne pouvez pas dire mieux que ça. Hein?
100%. Puis où j'entre dans cette équation-là, c'est que je travaille présentement, puis ça, on s'en était parlé aussi lors du sommet Dynastie, je travaille présentement sur un programme qui pourrait permettre aux jeunes de se voir dans un média d'information. Ça fait 10 ans que je travaille, que ce soit à TVA Sport ou à VTL à l'époque, puis on le sait, mais la place de la diversité au petit écran, elle est très petite, voire inexistante. Il y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de reporters noirs, il n'y a pas beaucoup d'animateurs noirs, il n'y a pas beaucoup de chroniqueurs noirs ou issus de la diversité. Et ça, je crois que c'est mon travail. Maintenant, j'ai vraiment une mission de me mettre là-dessus. Puis avec le Centre La Salie, on travaille sur quelque chose, on cuisine, on mijote sur un petit projet qui pourra permettre à des jeunes non seulement de rêver, mais d'accéder peut-être à un stage ou un emploi dans ces salles d'information.
Dans le système de l'information et des communications. Pourquoi pas? Oui. Bravo, merci. Andy. Et puis l'environnement, le côté culture, comment dire, santé physique et santé mentale, ça m'a beaucoup touché aussi. Hein.
À 100%, parce que les gens pensent que c'est juste un centre avec des salles, avec des bureaux, mais le centre La Salie, ben, plus gentil, il faudra que tu viennes.
C'est vrai, je vais venir.
Ben oui, on a un gymnase. On a littéralement un gymnase.
Il faut que tu sois là pour me faire visiter tout le centre là.
Écoute, c'est ma mission première. Je mets à mon agenda demain pour trouver une date ensemble. C'est vraiment spectaculaire. Et on bénéficie vraiment de plusieurs subventions qui ont permis au centre depuis des années d'avoir de belles installations. Et comme tu le disais tout à l'heure, les plateformes numériques, les jeunes sont vraiment là-dessus.
Oui.
Et c'est ce qu'on tente de faire miroiter aussi au centre. Il faut comprendre que les jeunes sont connectés maintenant. Mmh. Les jeunes sont connectés très, très jeunes. Les intervenants sont au courant. Donc, il faut les garder stimulés. C'est pas facile de garder un jeune pendant un atelier de 30 minutes, une heure, et de garder son attention.
C'est pas évident.
Il y a toutes sortes de techniques. Et du côté culturel, bien sûr, il y a des spectacles, des formations, de théâtre, etc. Mmh. Ça permet aux jeunes de trouver son compte.
Mmh. Comment on peut devenir bénévole là-bas?
Super simple, via le site internet centrelasalien.org.
Oui.
Juste nous, dans la section qui sommes-nous, il y a aussi une façon vraiment de nous contacter par courriel, par Facebook. On est vraiment partout sur toutes les plateformes. Mm-hmm. Ou juste de nous lâcher un coup de fil. Et c'est super simple. On a des événements souvent qui sont affichés sur les réseaux sociaux. Et c'est assez simple de juste frapper à notre porte, de venir nous visiter. Les portes sont toujours ouvertes. Puis non, sincèrement, c'est pas compliqué. Plus gens, je pense que tu n'as pas le choix maintenant. Il faut que tu viennes.
Oh, non. Andy, il fait ça. Non, Andy, je vais venir. Non. Je vais t'envoyer un petit mot là. Hein, tu sais, en fonction de nos calendriers, nos emplois du temps. Non, moi, je fais pas de reportage là. Moi, je viens en studio par jour là. C'est toi qui fais des reportages. C'est toi qui.
Oui, mais c'est pas grave. Pour ça vaut la peine de canceller une de mes journées.
Oh, Andy, un dernier mot aux auditeurs qui nous écoutent, qui aimeraient bien venir en aide. Vous recevez des dons aussi, non? Et qui sont vos partenaires principaux?
Il y a toutes sortes de partenaires. Je te dirais que ça change d'événement en événement. On a eu, durant la pandémie, beaucoup Moisson Montréal pour tout ce qui est des paniers de nourriture.
Oui.
On a toutes sortes de... Moi, personnellement, j'ai cogné à beaucoup de portes durant la pandémie.
Oui.
Des boulangeries dans la petite Italie qui nous ont offert des pains. On a eu des restaurants qui sont venus, des hôtels. L'hôtel Sheraton à Laval a fourni de la nourriture pendant des mois cet été-là pour les livraisons.
Oui.
On a toutes sortes de partenaires à gauche, à droite. On a aussi un de mes bons amis, Junior Ulysse, le boxeur montréalais, qui est là à chaque semaine. C'est hallucinant. Des fois, j'oublie qu'il est boxeur aussi professionnel. Mmh. Il est là. Alors, c'est beaucoup, beaucoup de...
Non, mais le boxeur, c'est son métier. Il gagne son argent là-bas. Mais ce qu'il a dans le cœur, c'est autre chose.
100%.
Voilà. Donner aux autres, c'est autre chose. Tendre la main aux autres, c'est autre chose.
Vraiment.
Quand il fait des combats, peut-être tous les mois ou bien tous les 6 mois, c'est comme ceux qui se lèvent tous les matins, ils font le 9 à 5 au bureau.
Il y a une fois, il avait un combat, je crois que c'était l'année dernière, il avait un combat. Le lendemain, il était au centre de la salie pour venir livrer de la nourriture. Juste te montrer, c'est quel genre de personne Junior Ulysse.
C'est ça.
C'est vraiment intéressant de voir à quel point il est impliqué.
Oui.
On a bien sûr la banque TD qui s'implique aussi avec le centre La Salie.
Oui.
Plusieurs partenaires qui sont là puis qui nous lâchent pas. Donc, ça fait du bien.
Et si quelqu'un veut faire un don, il n'a qu'à aller sur le site Centre Lassalien en un seul mot, c'est centrelassalien.org, O-R-G, oui. Bien sûr. Et vous allez voir la partie là-bas où faire le don, parce qu'il y a des gens qui travaillent là-bas qui sont payés, il y a des gens qui font du bénévolat aussi, et les jeunes gens que le centre suit de près aussi ont besoin quelquefois de support financier, pourquoi pas ? Parce qu'ils sont... Oui, voilà, donc s'il y a des... Il y a des mécènes qui nous écoutent, il y a des samaritains qui nous écoutent, qui veulent faire un petit geste, n'hésitez pas à aller sur le site là-bas, centrelassalien.org, vous allez tomber sur ça, et puis faire le petit don. C'est pas, on dit pas des millions, hein, même 5 dollars, même 3 dollars, même 100 dollars, même 50 dollars. C'est le geste qui compte, c'est pas le montant.
C'est bien dit.
Voilà. Andy ? Merci beaucoup.
Oui, genre.
Merci ben beaucoup. Merci moi qui te dis merci. Adi Mahi Pressoir, porte-parole du Centre Lassalien, centre socio-éducatif, chroniqueur sportif à TVA Sport. La prochaine fois, là, quand je vais t'inviter, c'est pour venir parler de ta carrière de chroniqueur sportif, la reporter et tout ça.
Parfait, donc je mettrai l'autre chapeau.
Voilà. Allez, merci à toi et bon début de semaine à toi, Andy.
Merci, toi aussi.
Au revoir. Salut. Poésie, Dandé. Voilà, on est à la fin de l'émission comme ça. Merci à Louise Thibault qui est venu nous parler de vitamine B. Voilà, elle a beaucoup mis l'accent sur B3, B6, B9, B12, oui, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Oui. Aller manger beaucoup d'aliments avec ces genres de vitamines-là, ça peut beaucoup, beaucoup, beaucoup aider. Et merci à notre invité Andy Mailly, Pressois, qui est porte-parole du centre La Salière, centre socio-éducatif, qui veut nous parler de la mission de ce centre qui est situé dans le quartier Saint-Michel. Allez-y sur le site centre La Salière en un seul mot, .org, ça dit ORG. Vous allez avoir toutes les informations si vous voulez devenir bénévole, si vous voulez faire un petit geste, si vous voulez simplement aller visiter, et puis bon, ben voilà, pourquoi pas, allez tout trouver là-bas, et sur le site. Et puis, ils ont toujours besoin de bénévoles, bien sûr, c'est parce qu'il y a des employés, des bénévoles, qu'à tout moment, ils en ont besoin, ces gens du centre-là. On dit bravo à Andy, qui est le porte-parole, et à toute l'équipe derrière là-bas, c'est toute une équipe. Hein. Je suis allé sur le site, j'ai vu le nombre de gens qui travaillent pour ce centre, et dit bravo à ces personnes qui donnent de leur temps. Merci à toi, Maurice. On se retrouve vendredi prochain. Bonne semaine à toi. Et puis, merci à nos fidèles auditeurs qui nous suivent depuis le début de cette émission. On les retrouve demain. Prenez soin de vos minutes. Et on se retrouve demain à la même heure sur les ondes de Canal M. Voilà. Sur ce, je vous dis ciao.